Bonjour Marc Lilla.
Bonjour.
Vous êtes l'une des plus grandes voix de la gauche intellectuelle américaine, enseignant à l'université de Columbia à New York et enseignant également à Sciences Po à Paris. Et votre dernier livre a pour titre « L'esprit de réaction » qui sortira mercredi aux éditions des Clés de Brouwer. La pensée réactionnaire qui serait de retour parmi l'élite et le peuple, écrivez-vous. Une pensée réactionnaire dont vous dites d'ailleurs en préambule, dont vous rappelez qu'elle est protéiforme, une pensée aux mille visages. Mais quel est le dénominateur commun à ces mille visages de l'esprit réactionnaire?
Le réactionnaire, en contraste avec les conservateurs, est enivré, je dirais, par une vision de l'histoire, une vision apocalyptique. Le réactionnaire croit qu'à un certain moment dans notre histoire, on a chuté. Et donc, il faut ou remonter en arrière pour rétablir le monde que nous avons perdu, ou il faut sauter le présent pour créer un nouveau monde qui ressemblerait au monde du passé, mais serait plus fort, plus autoritaire, etc. Donc, le réactionnaire est obsédé par l'idée qu'il y a eu une rupture dans l'histoire.
Une rupture, action, réaction. Vous rappelez aussi qu'avant la Révolution française, cette réaction était associée à un certain dynamisme. C'est un peu l'inverse aujourd'hui. Pendant la Révolution, avant la Révolution française, le réactionnaire avait un élan plutôt positif, alors qu'aujourd'hui il est vu de façon plutôt négative.
Oui, dans le sens que pour Montesquieu, par exemple, il y a toujours des actions et des réactions en politique. Ce n'était pas une question morale, c'était juste comme la physique, pour ainsi dire, de la vie politique. Mais c'était après la Révolution française que l'idée que rejeter l'héritage de la révolution était une marque de diable, je dirais, que il y a un progrès et tout le monde doit être d'accord que l'histoire est en marche vers un avenir radieux. Et donc, il faut s'inscrire dans ce mouvement et cette histoire.
Aujourd'hui, vous opposez donc réactionnaire et révolutionnaire. On va rappeler que, vous l'avez dit, le réactionnaire est ancré dans le passé, alors que le second, le révolutionnaire, lui, se projette dans l'avenir. C'est bien ça qui différencie révolutionnaire et actionnaire.
Oui,
réactionnaire et révolutionnaire.
Tout à fait, mais ce sont des cousins. Parce que le révolutionnaire aussi, il croit à une rupture dans l'histoire. Et cette rupture a déjà eu lieu. Donc, il faut continuer la révolution ou il faut déclencher cette rupture.
Vous dites que la rupture est inhérente aux révolutionnaires, sauf chez Tocqueville, que vous appréciez particulièrement, votre maître à penser. La révolution, dit-il, est non pas une rupture, mais plutôt une évolution entamée sous l'Ancien Régime. On peut donc être révolutionnaire sans rupture, selon Tocqueville.
Tout à fait. Et c'est ça la réalité de l'histoire. Mais ni le révolutionnaire, vivent dans cette réalité. Ils vivent dans un rêve de rupture et une vision messianique de l'histoire.
Mais c'est une vue de l'esprit, ça justement, c'est un mythe que de penser que le passé est divisé comme ça en âge distinct, en âge cohérent, qu'on peut classer aussi bien les événements que les êtres, que les groupes, que les activités humaines, tout ça, au fond, c'est assez rassurant.
Ah oui,
pour l'esprit.
Oui, et c'est pour ça que le réactionnaire devient de plus en plus important, parce que ça donne un sens de sécurité, qu'on sait ce qui se passe dans le monde. Et quand les gens sont déboussolés, comme ils le sont aujourd'hui, par tous les changements, dans pas seulement économiques et politiques, mais dans nos familles, la sexualité, etc., ils veulent croire qu'ils comprennent leur expérience présente.
Et ils sont des gardiens du temple, en quelque sorte.
Voilà. Et les réactionnaires, comme les révolutionnaires dans le passé, ont des contes de fées qui expliquent tout. Vous vous sentez mal, c'est très bien, je comprends pourquoi, c'est parce qu'il était une fois. Et dès ce moment-là, les gens sont rassurés, même si cette histoire est assez noire. Il veut croire savoir ce qui se passe.
Le réactionnaire est le roi du storytelling. C'est lui qui aime bien qu'on lui raconte des histoires. Ces réactionnaires, ils s'expriment, et vous le dites très bien dans votre livre, notamment chez Daesh, au sein de l'islamisme de Daesh. Là encore, c'est leur référence au passé et cette interprétation du passé qui les rend réactionnaires.
Oui, et ce que c'est extraordinaire chez les islamistes radicaux, c'est que pour eux, la chute est arrivée après le quatrième calife. Donc très très tôt dans l'histoire de l'islam, et donc on peut trouver des livres publiés, on peut les trouver dans les librairies ou en ligne, expliquent pourquoi, après le quatrième calife, et avec la naissance des empires islamiques, l'islam a perdu son cœur. Et tous les problèmes de notre temps, ont commencé là. Ce sont les résultats de cet virage dans l'histoire. C'est pour cela qu'il faut pas réformer les sociétés contemporaines ou réformer l'islam. Il faut revenir au début.
Et un passé fantasmé, parce que c'est quand même aussi fantasmé.
Tout à fait, parce que c'est le produit d'un récit.
Quand vous dites que le réactionnaire déteste la modernité parce qu'il est tourné vers le passé, pourquoi dites-vous que ça n'a pas d'avenir, cette vision du passé? En quoi elle n'aurait pas d'avenir?
Parce que, comme je disais, il y a deux sortes de réactionnaires. Il y a le réactionnaire qui ne pense qu'à retourner en arrière.
Mais le passé, pardon de vous couper, le passé, ça peut être un marqueur inspirant. Tout n'est pas à jeter dans le passé, dans un monde présent qui va toujours de plus en plus vite et qui ne réfléchit plus parfois. Le passé n'est pas forcément négatif.
Le passé en tant que tel, pas du tout. Pas du tout. On peut apprendre des choses du passé. Et c'est aussi, nous avons besoin du passé pour nous écarter de la pensée unique de notre temps, c'est toujours le cas. Mais le réactionnaire, il n'est pas attaché à certaines dimensions du passé. Il est un amoureux de son récit de l'histoire. C'est ça. Il faut que la brèche,
que l'histoire se répète,
dans l'histoire explique tout.
Et pourquoi donc, ça explique pourquoi les discours réactionnaires sont aussi à la mode en ce moment, pourquoi ils émergent un peu partout dans le monde, à la Maison Blanche, chez Poutine, comme certains pays de l'Est, en Turquie ou chez Daesh. Il y a en ce moment dans le monde un terreau favorable à cette émergence réactionnaire?
Oui, je crois qu'au fond, c'est parce que après 89, nos
1989,
il faut le préciser,
la
en France.
La chute du mur de Berlin.
En France. Et que les idéologies qui ont régné pendant le 19e et 20e siècle sont mortes. Donc, mais l'histoire, l'expérience continue. Et donc, il n'y avait plus, après ce moment-là, des grands récits pour expliquer notre histoire et notre présent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des récits du passé qui sont transformés dans un espoir pour l'avenir.
Marc Lilla, vous racontez qu'au moment des attentats de janvier de 2015, vous étiez en France et que vous avez été frappé par la nostalgie des intellectuels français, cette espèce de fatalisme sur le déclin de la France.
Oui, il y avait deux sortes de réactions que j'ai notées à ce moment-là. Il y avait ceux qui voulaient défendre la démocratie libérale et la modernité contre ces actes et l'inspiration de ces actes d'un côté, mais de l'autre côté, il y a eu des critiques réactionnaires qui disaient qu'en fait, c'est à cause de notre modernité que nous sommes devenus faibles.
C'est un peu ce que dit Michel Houellebecq.
Voilà. Houellebecq, c'est en tout cas mon
avis. Dans son livre Soumission.
Oui, mais quand même, oui, il y a ce sens que nous avons. C'est un signe qu'il faut nous changer. Et en fait, c'est la même chose qu'ils disent les islamistes radicaux. Le problème, c'est nous. Et donc, il y avait cette relation un peu bizarre entre les réactionnaires qui critiquaient l'Ouest, le monde occidental moderne, et les Français et les islamistes.
Aux États-Unis, Donald Trump, lui aussi tourné vers le passé avec son « Make America Great Again ». Est-ce que ça fait de lui la plus grande voix mondiale des réactionnaires ?
Oh, Trump, vous savez, c'est un ambitieux. C'est pas quelqu'un qui a des idées. Les idées traversent son esprit de temps en temps. Mais il a autour de lui des vrais penseurs réactionnaires.
Il vient de limoger John Bolton, hein, qui est son puissant conseiller à la sécurité nationale intérieure, qui semblait encore plus réactionnaire, en tout cas plus belliqueux que Donald Trump. Avec ce départ, est-ce que c'est l'influence de ce courant réactionnaire néoconservateur qui a du plomb dans l'aile? On dit ça, c'est une expression française. Est-ce que le mouvement néoconservateur bat de l'aile en ce moment aux États-Unis ou est-ce qu'il va toujours aussi bien, malgré le départ de Bolton?
Non, ça n'a rien à voir avec Bolton, parce qu'il ne s'agit pas de la politique étrangère. C'est plutôt une question de comment définir les États-Unis comme État, comme nation, dans l'avenir. Il y a autour de Trump des jeunes qui sont des national-conservateurs.
Ça a toujours existé. Rumsfeld chez Bush, Dick Cheney, c'était quand même pas non plus de grands démocrates.
Non, je veux dire que national dans le sens que il faut reformer les États-Unis à l'intérieur pour que nous deviennent de plus en plus patriotes, que nous avons une éducation civique, que nous contrôlions l'immigration pour être une nation, pas une nation plurielle, mais une nation
nationaliste
plus cohérente. Et fier d'elle-même, mais aussi pas. Il rejette cette vision d'une société plurielle avec beaucoup de groupes, beaucoup de idées différentes. Ils veulent que les États-Unis deviennent un pays comme ils rêvent les autres pays le sont.
Mais vous, Marc Lilla, aux États-Unis, vous êtes considéré comme un réactionnaire ?
Oh, moi non, j'espère, mais on m'appelle le plus conservateur de la gauche américaine.
C'est depuis que vous avez écrit votre dernier livre où vous avez décrit la gauche américaine comme ayant oublié les questions fondamentales pour se replier sur elle-même, cette gauche, repliée sur des questions identitaires. C'est pour ça qu'on vous qualifie depuis votre dernier livre de réactionnaire.
Oui, c'est un moment difficile pour les libéraux modérés comme moi. Et je pense, par exemple, la tradition en France de Raymond Aron, François Fioré. C'est difficile dans un moment où les gens se sentent très déboussolés, Donc, il veut attendre les contes faits de gauche et de droite. Et quand les passions montent... Les passions.
Oui, les passions.
Les passions deviennent de plus en plus fortes. Et le modéré semble quelqu'un qui, en fait, ne comprend pas notre actualité. Et donc... je suis dans la situation de défendre le présent. Le présent a besoin d'amis. Parce que la gauche ne pense qu'à un avenir pour échapper à notre présent et les réactionnaires ne pensent pas qu'au passé.
Vous êtes donc resté un progressiste modéré, Marc Lilla, dites-vous. Progressiste tout en étant inspiré toujours par des libéraux, Tocqueville et Aron. Ça fait de vous un personnage et de droite et de gauche, c'est la définition en France du dogme élyséen d'Emmanuel Macron. Vous êtes en phase avec ce segment politique d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et de droite et de gauche?
Oui, je ne sais pas si je comprends vraiment l'esprit de macronisme. La personnalité, la figure lui-même me fascine. C'est impressionnant que les gens qui sont entrés en politique à cause du mouvement de Macron, mais je ne vois pas là des idées qui organisent la pensée et les politiques de Macron. C'est comme s'ils réagissent tout le temps aux situations, qui est très sage. Mais il n'y a pas cette cohérence qu'on cherche, par exemple, dans quelqu'un comme Tocqueville, Constant.
Il n'a pas une vision de son époque?
Surtout une vision de la nation et de la République.
Et du bien commun? Une pensée autour du bien commun?
Oui, c'était difficile pour lui parce que il a sorti des phrases extraordinaires sur les cendants et etc.
C'est François Hollande sur les cendants.
Ah, c'était François Hollande,
c'était son prédécesseur.
Pardon.
Et encore, ce sont des propos attribués par son ex-femme.
D'accord, mais c'était Macron qui parlait les gens, qui ne voulait pas travailler, etc. Et c'est difficile d'établir l'unité de la nation avec un tel discours.
Le révolutionnaire se nourrissait d'espoir, le réactionnaire se nourrit de nostalgie, on lira ça dans votre dernier livre, Marc Lilla, L'esprit de réaction, l'esprit réactionnaire. Le livre sortira à partir de mercredi prochain chez Desclés.
Et on vous remercie d'aimer autant la France et notre culture.
Et la langue française.
Franchement,
merci beaucoup.
Au revoir, Marc Lilla.